Ça commence comme une histoire qu'on raconte aux enfants. Longtemps, écrit la romancière Chloé Delhomme, on a pu croire que le mot fraternité n'avait pas d'équivalent féminin. Le mot était dans le dictionnaire pourtant, mais personne ne l'utilisait. Or, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. La possibilité d'une communauté de femmes parfaitement autonome et totalement unie n'était pas bienvenue sous le règne de l'Église et du patriarcat. Il faut mesurer la dangerosité du concept. Par la sororité surgit l'indépendance, voire l'autogestion. Le système dominant n'a aucun intérêt à être perturbé par un contre-pouvoir. Dans ce texte d'introduction à un recueil écrit par des femmes, Chloé Delhomme raconte l'effacement d'un mot existant. Et c'est proprement fascinant. Quand on a grandi avec le mot fraternité, si commun qu'il est devenu devise, qu'il est écrit jusque sur le fronton des mairies, on n'y pense même plus, tant on l'a intégré. Le geste sororal, il faut l'imaginer quant à lui. C'est un lien, dit-elle, tissé volontairement, qui ne s'impose pas de lui-même, y compris au sein de la cellule familiale. La sororité n'est pas une évidence. Parfois même, elle rebute, pouvant être perçue comme contraignante, voire déficiente. La sororité est un choix où le pouvoir individuel abdique au profit d'une force collective bientôt prête à l'action. La sororité relève du politique et a le concret pouvoir de modifier le réel. Cette histoire, il faut la raconter aux enfants.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui, depuis ses débuts dans le cinéma documentaire il y a 27 ans, nous parle de sœurs et de femmes, réalisatrices résolument engagées. Elle explore les silences de nos identités, de notre mémoire collective. Sœurs, son nouveau film avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwenn, notamment sort mercredi. Trois femmes d'origine algérienne, nées en France, confrontées à la violence de leur histoire familiale. Bonjour Yamina Benguigui.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être sœur pour vous ?
Alors, moi, je suis personnellement une grande sœur. Alors, je ne suis pas l'aînée de la famille, mais je me suis toujours sentie l'aînée. Donc, je suis une sœur protectrice, une sœur qui sait encaisser, une sœur qui tente de réparer. Et une sœur qui protège.
On l'entend dans votre discours, Yamina Benguigui, ça va beaucoup plus loin que le cercle familial, cette solidarité entre femmes, cette sororité. Avez-vous le sentiment qu'elle soit assez active aujourd'hui, que les femmes soient suffisamment unies ?
Je vais parler que du métier de réalisatrice ou d'actrice. Nous sommes assez nouvelles. J'allais dire, j'ai nouvelle sur le marché, parce que c'est vraiment ça.
Quand même, c'est-à-dire il y en a des actrices.
Non, mais jusque dans les années 60-70, il y a 4 réalisatrices, oui. Par exemple, en France. Mais il n'y a pas cette solidarité. Nous sommes un peu des poissons échappés du filet. La sororité est importante et la solidarité, c'est deux mots qui vont ensemble pour les femmes. Sans solidarité, nous ne pourrons pas évoluer et nous ne pourrons pas nous émanciper comme nous le voulons.
S'émanciper d'un ordre patriarcal. Je vous pose la question parce que dans Sœur, votre nouveau film, vous faites la part belle à des personnages féminins qui se heurtent directement à l'autorité abusive de la figure paternelle. Quel est le prix à payer, Yamina, quand on s'oppose à la loi du père ?
Ce prix peut être vital, vous pouvez en mourir. Vous pouvez aussi devenir folle, mais si vous évitez, grâce à votre puissance, pour aller vers cette émancipation, cette liberté, mais vous vous en sortez pas mal. Mais l'autorité du père dans notre histoire est particulière. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait pareil. S'émanciper d'une famille franco-algérienne comme la nôtre, en tout cas la mienne, c'est pas simple parce que c'est s'émanciper de l'histoire. Oui. C'est-à-dire que les pères portent le poids de leur histoire, de l'indépendance de l'Algérie, et ils sont l'Algérie. Et ils sont l'indépendance de l'Algérie. Donc, comme nous n'avons pas la culture du divan, puisque parler c'est trahir, donc lorsque quelques-unes font des psychanalyses, on va en parler très légèrement comme ça, mais en même temps, à un moment donné, il faut tuer le père. Mais nous, on a besoin de le déterrer, de le ressusciter
L'histoire que vous racontez dans Sœur s'inspire évidemment de la vôtre. Lorsque votre mère a divorcé de votre père, celui-ci a enlevé deux de vos frères et sœurs en Algérie. Yamina Benguigui, à quel moment de votre vie avez-vous commencé à vous rebeller contre lui ?
Au moment de la volonté de ma mère de changer de vie, je n'ai pas reconnu mon père, c'est-à-dire que mon père est devenu un tyran idéologique sur la place de la femme, c'est-à-dire...
Et c'est passé par quoi cette rébellion alors ?
Je suis partie, je me suis sauvée, et vite rattrapée par la famille, puisque mes frères et sœurs avaient été enlevés. Donc à ce moment-là, je me souviendrai toute ma vie, je démarrais mon premier stage de cinéma. J'allais commencer ce métier et tout s'est écroulé parce qu'il a fallu retrouver, enquêter, devenir la mère de ma mère, la mère de mes sœurs, la mère de cette famille et rechercher mes frères et sœurs en Algérie.
Mais diriez-vous, a posteriori, que votre rébellion, elle est aussi passée par le cinéma ?
Ça a été ma première rébellion et ça a été mon ancrage aussi puisque, évidemment, je vais me tourner vers la cinémathèque algérienne. Je n'ai aucun repère là-bas pour retrouver mes frères et sœurs. Et ce sont eux qui m'aideront. Et le soir, j'étais un peu leur invitée permanente quand on avait fini de chercher, d'essayer toutes les pistes, de ne pas les trouver. Ça se terminait toujours devant un film. Et je me rappelle avoir vu La Grève, un documentaire de Eisenstein. Et je m'en voulais de rentrer dans le film et d'oublier le pourquoi j'étais là. Mais ça aussi, c'était aussi important. Et je me disais, bon ben voilà, là, quand je ferai du documentaire, ce sera comme ça. Et c'est la fuite en avant. Je ne reverrai pas mon père.
Yamina Benguigui, c'est d'abord par le documentaire que le grand public vous a découvert. Je pense par exemple à Femmes d'Islam, Mémoire d'immigrés, L'héritage maghrébin, ou encore à votre film sur le département de Seine-Saint-Denis. Au fond, pourquoi la fiction aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle vous permet ?
Je voulais à la fois faire du documentaire, faire de la fiction. Faire du documentaire parce que il y avait une urgence à dire, une urgence à expliquer notre histoire par des images. On va dire que le documentaire est quasiment le hors-champ. Et ce hors-champ commençait à me rattraper pour arriver jusqu'au centre qui est moi. Et là, vous ne pouvez passer que par la fiction.
Ouais. Votre double danseur, il est donc incarné par Isabelle Adjani, dont le travail est de raconter des histoires. Elle est metteur en scène.
Oui.
Et ce que vous montrez de l'acte de création, c'est une certaine douleur. En quoi raconter une histoire, surtout lorsqu'elle touche à l'intime, est-il à la fois souffrance et soulagement ?
Elle est d'abord souffrance parce que, encore une fois, c'est un mot qui est important, vous trahissez. La trahison, elle est extrême, elle est là. Vous allez vous raconter, donc, dans ce « vous », il n'y a pas que « je » derrière. Il y a la famille, le groupe et le pays d'origine, toujours en écho.
Oui.
Parce que le groupe vous le rappelle tous les jours. Attention, mais qu'est-ce qu'on va dire là-bas ? Le là-bas, dont on ne sait même pas qui est là-bas, puisque nous sommes nés ici, nos familles sont là, nous connaissons très peu de choses de nos familles là-bas, mais le là-bas devient très 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 puissant, donc il vous entoure comme ça. Et puis après, il y a la fiction, c'est-à-dire je mets mon manteau magique, qui est la fiction, et je veux entourer le réel, fictionner quelque chose dont le départ est vrai.
Est-ce que la douleur disparaît ?
Non, la douleur ne disparaît pas parce que ça devient abyssal. C'est-à-dire que vous avez appuyé sur un bouton et puis finalement, vous êtes dans un film de Nolan. C'est-à-dire...
Inception.
Oui, Inception, c'est Inception. Vous allez dans les dédales de la mémoire, vous arrivez à toucher des choses que vous avez oubliées, vous rencontrez vos propres souvenirs, mais c'est formidable.
Celle qui est tout entière dans la douleur dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité sans anesthésie. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 24 juin ?
Ah.
8 en tout, 5 femmes et 3 hommes. Le jury du 74e Festival de Cannes, présidé par Spike Lee, vient d'être révélé. Majoritairement féminin, résolument international, il réunira les actrices, réalisatrices et productrices Mati Diop, Jessica Hausner, Maggie Gyllenhaal et Mélanie Laurent, les acteurs Song Kang-ho et Tahar Rahim, ainsi que le cinéaste Kleber Mendoza-Filho. Enfin, invitée surprise, Mylène Farmer complétera ce casting de luxe. La divine diva russe qui vient d'annoncer par ailleurs une flamboyante tournée des stades pour 2023. Allez là. Le coup de minuit. Le groupe Madrigal, maison mère de Gallimard, rachète Minuit, les éditions mythiques dirigées depuis 1948 par la famille Lindon. Éditeur historique de Beckett, du nouveau roman avec Alain Robbe-Grillet et Nathalie Sarraute, mais aussi de Marguerite Duras, Claude Simon et plus récemment Jean Echenoz, Jean Rouault ou Laurent Mauvigné. Les éditions de Minuit possèdent l'un des catalogues les plus prestigieux de la littérature française. L'âge venant, il fallait que je pense à l'avenir de la maison, de ses collaborateurs et de ses auteurs, a déclaré sa présidente Irène Lindon, âgée de 72 ans. Une page se tourne.
I'm so not a technical photographer. If that's what you're thinking about, you're not taking pictures.
L'Académie des Beaux-Arts s'est choisie hier 3 nouvelles immortelles qui auront droit à leur habit vert brodé de rameaux d'olivier. La sculptrice Anne Poirier va s'asseoir sous la coupole au fauteuil numéro 7 de sa section. La grande photographe de mode Dominique Isserman au numéro 3 de la sienne. Et l'architecte Anne Demians au fauteuil numéro 5 de la section d'architecture qu'elle sera la première femme à rejoindre. Dans le même temps, l'honorable institution a décerné son prestigieux prix de photographie William Klein à la légendaire portraitiste américaine Annie Leibovitz. You go, girls. And goodbye Yellow Brick Road. La pop star Elton John reprendra en 2022 sa tournée d'adieu à travers le monde, débutée en 2018 et mise en pause par la pandémie. Bouquet final d'une carrière de près de 50 ans, ce tour d'honneur flamboyant se déploiera sur 30 dates en Europe, en Océanie, en Amérique du Nord. Chez nous, l'interprète de Rocketman marquera un arrêt unique à la Défense Arena de Paris le 11 juin 2022. Mais pour les plus impatients, le Britannique montera 3 fois sur scène en parallèle de cette tournée en octobre prochain à l'Accor Hotel Arena de Bercy. Oui. La réalisatrice Yamina Benguigui, invitée de Boomerang ce matin pour Sœur, en salle mercredi, ce film qui interroge l'appartenance à une double culture, ces 3 sœurs dont vous nous racontez l'histoire, comme vous, sont nées et ont été élevées dans une défiance de la France par leur père, une France qu'elles aiment pourtant, à laquelle elles sont parfaitement intégrées et même enracinées. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec votre pays, la France, Yamina?
Ici, même si vous êtes né ici, on vous dit bien, vous êtes dans le pays d'accueil.
Ouais.
Et ma petite angoisse tout le temps, en étant né ici, je me sens complètement, je vais pas dire intégrée, assimilée, rien du tout, je suis moi ici. Mais ce mot pays d'accueil, j'ai l'impression qu'il a parfois, lorsqu'on vous accueille à la maison, à un moment donné, il va falloir sortir de la maison, il va falloir partir. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver un troisième mot?
Alors, précisément, aimer la France, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, qui, par le passé, par ailleurs, avait été ministre sous la présidence de François Hollande?
Et puis, ministre de la francophonie. Donc, ministre de la francophonie, c'était quand même pas rien, parce que vous vous retrouvez à dire l'importance de la langue française. Alors, quand on le dit dans un pays comme l'Algérie, où il y a eu une colonisation, une guerre. Puis finalement, un jour, je leur ai dit, la langue française s'est débarrassée des oripeaux du colonialisme.
Mais c'est ça. C'est-à-dire
qu'il faut savoir le dire. Quand vous allez en Afrique et que vous apportez cette parole comme ça, c'est comment allons-nous faire pour essayer de créer un nouveau dialogue?
Et peut-être précisément en refusant de fermer les yeux, ce que vous faites dans vos documentaires, très littéralement, oui. Explorer la complexité, les zones d'ombre, les silences de l'histoire également.
Oui.
Là, évidemment, je pense tout de suite à tout votre travail portant sur l'arrivée et l'installation de populations maghrébines en France dans le milieu des années 90 avec Mémoire d'immigrés, l'héritage maghrébin. Vous êtes emparé de ce sujet à une époque où on en parlait très peu et presque pas au cinéma. Ce travail, à l'époque, comment est-ce que vous avez le sentiment qu'il a été reçu?
Ça a été une explosion que je n'ai pas maîtrisée tout de suite.
C'est passionnant.
J'ai eu tellement de mal à le fabriquer que le jour où il est projeté, c'est un événement, mais ça a été un événement, mais même, je peux dire, planétaire, parce qu'il est aujourd'hui dans une quinzaine d'universités depuis 1997 aux États-Unis, au Canada.
Parce que c'est un retour du refoulé, en fait.
Absolument, c'était que d'un seul coup, on puisse entendre, on ne parlait plus à leur place, et on écoutait ce qu'a été cette immigration, je veux dire, le préjugé.
25 ans plus tard, Yamina Benguigui, avez-vous le sentiment que vos efforts, que vos films aient porté leurs fruits, que le silence de l'histoire sur l'immigration ait été vraiment brisé, que le racisme ait reculé?
Alors après, moi j'ai quand même fait un long chemin, c'est-à-dire j'ai fait Mémoire d'immigrés, après Mémoire d'immigrés, j'ai fait Le plafond de verre, j'ai fait le...
Où vous évoquez les discriminations dont sont victimes les jeunes,
oui,
issus de l'immigration.
Alors, il faut savoir que libérer la parole, c'était la première étape. C'est vrai, c'était énorme. Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'image sur cette histoire du tout. Ensuite, très vite, j'ai compris que le plafond de verre qui pesait sur les enfants de l'immigration, était énorme. Mais en faisant ce documentaire, c'était très compliqué parce qu'il fallait montrer quelque chose qui est invisible et impalpable. À quel moment un CV se perd parce que quelqu'un a eu un préjugé, mais ce préjugé, il n'est que dans sa tête. Alors comment je vais faire un film? Donc ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Mais ce film a servi toutes les entreprises. C'est à partir de ce film que on va mettre en place des outils pour soit le CV anonyme, etc. C'est à partir du film.
Donc là, on voit la portée politique, en fait, du cinéma. Pendant 2 ans, je le disais, Yamina Benguigui, vous avez été ministre déléguée à la francophonie. D'ailleurs, dans Sœur, le personnage de Rachida Brakni, femme politique, elle aussi, est comme un écho à votre parcours. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de la femme politique?
Alors, je pense que je suis toujours une femme politique, puisque tous mes films sont politiques.
Parce que faire du cinéma, c'est faire
politique.
De la politique.
Je n'ai pas démarré la politique parce que j'ai eu une fonction. Mais depuis Mémoire d'immigrés, Femmes d'islam, on dénonçait le code de la famille. Donc, faire du cinéma, comme je le fais, c'est-à-dire avec une portée politique, je peux dire, on peut agir.
Dans votre film, vous filmez aussi les débuts de la révolution de 2011 en Algérie. Quel regard, Yamina Benguigui, portez-vous sur la démocratie algérienne aujourd'hui, à l'heure où se tenaient, il y a une dizaine de jours, des élections législatives?
Moi déjà, je voudrais dire que je regarde le peuple algérien comme un peuple extrêmement fort, malgré tous les problèmes. J'ai tourné dans les années 90... pendant cette décennie noire où le monde entier avait abandonné l'Algérie en se disant « c'est un problème qui ne nous appartient pas ». C'était quasi ethnique puisque c'était des islamistes et le peuple. Aucun pays n'est venu en aide à l'Algérie. Et je me souviens d'une image très forte lorsque Pasqua a décidé de retirer la dernière échelle de l'avion Air France. Et pendant 10 ans, Air France n'est pas allé en Algérie. Nous avons été coupés. Et là, j'ai vu un pays qui non seulement s'est battu, s'est relevé et a à nouveau fait peuple.
Enfin, le peuple algérien, aujourd'hui, trouvera-t-il une issue que d'aucuns appellent une impasse autoritaire, Yamina Benguigui?
Ce que je veux dire, c'est que à partir de ce moment-là, on parle maintenant d'une Algérie qui commence à partir de ce moment-là. Cette Algérie, par exemple, elle s'éloigne de 1962. Les jeunes qui ont 30 ans ont vécu ce que je viens de vous dire. Donc c'est cette jeunesse-là qui, aujourd'hui, a décidé de se prendre en main. On les attendait sur un printemps arabe ou sur une révolution. Ils sont arrivés, ils nous ont surpris. Ce Irak marcher, dire, et pas de violence. Je crois qu'il y a une histoire qui est en train de se faire et de se défaire. Hélas, on est toujours un peu spectateur. Et là, moi, je parle de moi. Parce que on aimerait être plus présent, mais nous savons qu'ils ont leur chemin à faire.
On va en reparler de liberté, d'Algérie, mais aussi de voix, juste après celle de Souad Massi, qui habite votre film « Sœur », Kalouni, en 2005. Vous êtes sur France Inter, avec Yamina Ben Guigui. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'elle est assez impressionnante, quelque part entre Cléopâtre et Xéna la guerrière, cheveux noirs, rebelle, regard velours absolu derrière ses lunettes de soleil, elle ne laisse rien passer, tout en parfum. Ce matin, la cinéaste Yamina Ben Guigui, invitée de Boomerang pour parler de femmes, d'images, mais aussi de confiance. Et il se trouve, Yamina, que votre prénom signifie confiance. Dans quelle mesure diriez-vous que vous l'incarnez, votre prénom?
Je l'adore, mon prénom. Alors, j'ai besoin de la confiance des autres.
Et vous l'accordez facilement, votre confiance à vous ?
Oui. Et le premier déjeuner avec les actrices, avec Mai Wen, Rachida Brakni, Isabelle Adjani,
Afsia Herzi,
voilà,
Faiz Agen,
j'ai dit, faites-moi confiance.
Alors précisément, si faire du cinéma, c'est aussi un exercice de confiance mutuelle, comment faites-vous pour qu'un comédien ou une comédienne vous fasse confiance, qu'il ou elle accepte de se placer entre vos mains? À quoi ça tient?
Ça tient aussi à l'urgence des films que nous faisons, qui sont des films fragiles, les financements de ce genre de films, aller vite, décider d'aller tourner en Algérie. Donc il y a une urgence. Et dans une urgence extrême comme ça, il y a besoin d'avoir la confiance.
Qu'est-ce que c'est, au fond, une comédienne? Pour vous, qui pendant des années avez filmé dans vos documentaires des gens qui ne l'étaient pas, comédiens ou comédiennes.
Être comédien, c'est quand même une personne qui a le pouvoir d'engloutir, d'absorber ce que va être un personnage qui est comme ça, écrit sur du papier, prendre corps, être une éponge, ne pas aller plus loin non plus.
Mais pour ce film, vous êtes allé chercher des comédiennes qui entretenaient tout un lien avec l'Algérie.
Et par contre, pour Sœur, j'ai voulu absolument que toutes les comédiennes soient franco-algériennes.
Pourquoi ?
C'était capital pour moi, pour arriver à un certain degré de compréhension, parce que on parlait tout à l'heure de sororité, il fallait qu'elle soit là, présente, et il fallait ce vrai, entre guillemets. Peut-être c'est mon obsession du documentaire, oui, il est là.
Vous entendez une perche,
la vérité. Oui.
Vous qui êtes documentariste, Yamina Benguigui, dans quelle mesure votre film peut-il aussi être vu comme un documentaire sur trois femmes, trois comédiennes qui renouent avec une histoire enfouie?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde les comédiennes, leur jeu, il y a de la direction d'acteurs, il y a un film, mais il y a aussi une intensité dans leur regard. Quand on les regarde bien, là, elles sont aussi elles. De toute façon, il y a une phrase dans le film où Isabelle dit « Vous êtes elle maintenant ».
Précisément en filmant Isabelle Adjani, en la faisant tourner à Alger, par exemple, à quoi avez-vous eu le sentiment d'assister ?
Isabelle, dans le film, joue un peu mon rôle de ce que j'ai été avec mes frères. Donc, parfois, on se cherchait mutuellement. C'est-à-dire que moi, je la cherchais, elle me cherchait. Et Isabelle, il y avait l'histoire de sa famille, l'histoire de son papa. On était là et en même temps, on ne pouvait pas aller faire ce fameux voyage, aller voir qui sommes-nous. Non, on était là pour un film. Mais on était traversés par différentes choses. Donc on a vraiment fait sœur tout ensemble. Il y avait l'équipe et il y avait nous, on marchait comme ça un peu en crabe, on était... Parce que c'était très émouvant.
Encore une fois, c'était...
Très, très...
Vos histoires à vous, les histoires...
Tout était mélangé, là.
De cette sororité, et puis les histoires d'un pays.
L'histoire d'un pays, et puis nous avions aussi transgressé.
C'est sur la voix d'Isabelle Adjani que l'on va se quitter, justement, puisque vous parlez de transgression. Isabelle Adjani qui nous lit, pour l'occasion ce matin, pour ce boomerang, un texte que vous avez choisi ensemble, en toute confiance, un dialogue entre Ismène et Antigone, dans l'Antigone de Jean Anouilh. Pourquoi ce texte-là ?
On va dire que c'est la base de la tragédie familiale. Non, puis ça dit bien les sœurs, quoi. Antigone et Ismène sont quasiment... jumelles à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de jeunes Antigone dans notre histoire.
Ismène. Moi, tu sais, je ne suis pas très courageuse. Antigone. Moi non plus. Mais qu'est-ce que cela fait ? Ismène. Tu n'as donc pas envie de vivre, toi, Antigone? Pas envie de vivre? Qui se levait la première le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue? Qui se couchait la dernière, seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu plus la nuit? Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré, et qu'on ne pouvait pas tous les prendre? Ismène, ma petite sœur, Antigone. Ah non, laisse-moi, ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à pleurnicher ensemble maintenant. Tu as bien réfléchi, tu dis ? Tu penses que toute la ville hurlante contre toi ? Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez ? Ismène. Oui. Antigone, sers-toi de ces prétextes. Ismène. Antigone, je t'en supplie, c'est bon pour les hommes de croire aux idées et de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Antigone, une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille? Ismène, ton bonheur est là devant toi, tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Ismène, mais pas belle comme nous, mais... Autrement, tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue, que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux, jusqu'à ce que tu aies tourné le coin. Antigone. Des voyous, des petites filles.
les mots de Jean Anouilh lus par Isabelle Adjani exclusivement pour nous dans Boomerang. Merci tellement Yamina Benguigui d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Sœur, votre nouveau film avec Isabelle Adjani, donc Rachida Brakni, Maïwenn, Afsia Herzi, Fethouma Bouamari, entre autres, sort mercredi. Nul n'a besoin de rappeler que c'est un film à la gloire des femmes. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Efface-la.
Jeter Laura Cahen sur France Inter et tout de suite les médias avec Sonia De Villers, l'instant M.
Et ben on se retrouve demain, Augustin.
À demain.
Bye bye.